France Inter.
Merci beaucoup Stéphanie Duncan, bon Noël à vous et à demain. Aujourd'hui, la lutte écolo à hauteur de blaireau, racontée par...
Vincent Verza, vidéaste activiste de la chaîne YouTube Partager c'est sympa.
Gaspard Dalens, journaliste à reporter et auteur.
France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Dans un bureau du centre de la ville, un employé travaille depuis déjà quelques heures. Il range des fiches, écrit une lettre d'affaires et jette de temps à autre un regard machinal sur la pendule. Mais soudain, une bouffée de fièvre monte en lui. Il pose la plume sur le bureau et pendant quelques instants, sa pensée vagabonde au souvenir d'un abreuvoir de bois où un filet d'eau tombe avec un bruit régulier. Il n'était nulle part et il songe qu'il est en mai. Seul le souvenir d'un homme vivant dans son bureau ou sa maison, pour un moment vécu près du fait de la nature, mérite le nom de sentiment de la nature. Ce sentiment n'existe que de cet homme assis devant son bureau à 3h de l'après-midi, à cet abreuvoir de montagne à 4h du matin, non dans la véranda tiède d'un grand paquebot où un touriste endormi par les fumées des cigares et des liqueurs entrevoit à travers la béatitude de sa digestion le dessin estompé d'un fjord norvégien. Ce sentiment de la nature naît chez un homme qui, dans sa vie, pense à une autre vie. La puissance de ce sentiment, son universalité, sont parmi les faits les plus étranges de notre temps. C'est une nécessité vitale. Pour tous ceux qui ont encore un naïf désir de vivre, qui ne végète pas dans l'estomac du monstre social, il y a plus qu'une solution, attendre la fin du travail, vivre pendant des mois d'une vie ralentie. Le terme « vacances » finit par avoir une signification aussi forte pour l'adulte que pour l'élève bouclé dans un internat, car la société actuelle est aussi fermée qu'un internat. Pour combien de jeunes, tout y hypocrisie philosophique mise à part, le voyage en montagne ou en mer représente le seul moment de vie possible. En vain, des ministres essaient de nous persuader que les loisirs, c'est une rigolade. Non, c'est le travail artificiel imposé par la société actuelle qui mérite d'être traité avec ironie. Nos loisirs, affaires secondaires, mais c'est le seul moment où nous pouvons vivre sans arrière-pensée, chemise ouverte, faisant des calembours, connaissant enfin la joie d'apaiser notre faim et notre soif. Ce texte est extrait du Sentiment de la nature, force révolutionnaire, écrit en 1937 par Bernard Charbonneau, qui est considéré en France comme un précurseur de l'écologie politique. Vincent Verza et Gaspard Dalens, bonjour.
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 Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce sentiment de nature, plus de 80 ans après la publication de ce texte, Vincent Verza?
Ah, mais là, je reviens de quelques jours dans le massif de Belledonne où j'ai vraiment eu un choc de beauté devant un paysage, devant une journée passée à pister les cerfs et à en voir. Et du coup, oui, c'est très très présent en moi, ce bonheur intime d'être en immersion dans la nature.
Ouais. C'est où le massif de Belledonne?
C'est entre Grenoble et Chambéry.
Gaspard Dalens, pour vous, ce sentiment de nature, vous qui vivez dans la nature, hein?
Oui, tout à fait. Bah, en Ariège,
c'est
oui.
C'est où?
Oui, je vais en Ariège. Et, le sentiment de nature est un carburant aussi pour nos luttes écologistes. Hein. C'est ce que nous dit Bernard Charbonneau il y a 70 ans. Et finalement, on se voit qu'on réinvente un peu l'eau chaude et il faut marteler ce message, hein, et qu'on essaye de porter, mais que portait aussi le géographe libertaire Élisée Reclus en 1871. Il quittait la commune de Paris et serait abîmé par les combats et écrit Histoire d'une montagne en Suisse alors qu'il est exilé, en fait. Donc on voit que c'est quelque chose qui continue, qui est toujours là en fait dans les pensées de l'écologie. Rachel Carson qui écrit Le sens de la merveille. Donc vraiment, oui, cet émerveillement est un moteur, un carburant pour nous tous et nous toutes. Et donc moi je me retrouve vraiment dans la pensée d'un Bernard Charbonneau qui disait on a moins besoin d'un dimanche à la campagne, mais d'une vie, surtout d'une vie qui ne soit pas hors sol en fait.
L'émerveillement, ce jour de Noël, on va en parler puisque Vincent Verza, vous êtes le réalisateur d'un film documentaire que vous avez coécrit avec votre camarade Gaspard Dalens, qui s'intitule « Le vivant qui se défend ». C'est un film que vous avez autoproduit et qui est libre en accès donc, sur YouTube. Et Gaspard, vous travaillez en particulier sur les questions écologiques en tant que journaliste. Vous êtes d'ailleurs l'auteur d'un livre qui s'appelle « Des forêts en bataille » qui est sorti l'année dernière aux éditions du Seuil et qui vient de remporter le prix littéraire « Lire pour agir » et qui récompense votre travail sur les forêts. Vincent Verza, donc ce film documentaire très personnel qui raconte votre cheminement de militant, les luttes auxquelles vous avez participé, que vous avez filmé d'ailleurs, mais aussi ce questionnement que vous avez précisément sur votre rapport au vivant, à la nature, et ce besoin vital aussi que vous avez de combler des lacunes finalement.
À la fois de combler des lacunes, une ignorance en tant que militant écolo très politique. Moi, je brassais des gigatonnes de CO2 et j'avais peut-être le concept de la sixième extinction de masse, mais je le vivais pas dans ma chair. Je m'étais pas rattaché, relié à ces espèces communes qu'on voit dans mon film, en l'occurrence renards, chevreuils et blaireaux. Et en fait, le faire ce cheminement, prendre le temps qui peut être ressenti comme perdu, d'apprendre le pistage, de passer autant de temps dans des friches industrielles, repeupler mon monde de ses habitants, ça m'a vraiment bouleversé, ça m'a changé, et c'est que une fois avoir vécu ce chemin-là que je me suis dit, là en fait il y a un film, il y a une histoire à raconter.
Parce que c'était devenu dissonant quasiment pour vous quand même, vous passiez beaucoup de temps à militer et peu finalement à observer.
Trop peu, et puis surtout j'arrivais pas à faire le lien entre les deux, à nourrir ma lutte de ces rencontres animalières. Et lorsque ce lien a commencé à se faire, lorsque j'ai compris que moi, lorsque j'allais sur la lutte de la 69, en fait je voulais lutter pour empêcher que des blaireaux se fassent taper sur cette autoroute et pour préserver le plus longtemps possible, même si elle se fait. Mais quand on sait que l'espérance de vie d'un blaireau, c'est 5 ans, en fait, réussir à prolonger comme ça une génération entière de blaireaux, ça valait la peine. Ça a changé mon regard sur nos luttes et sur, pourquoi est-ce qu'on lutte en fait.
On va tout de suite écouter un extrait de ce documentaire, donc Le vivant qui se défend.
Il y a 4 ans, j'ai pris un tournant vers le vivant. Je suis parti à la recherche d'une lutte qui régénère. Ancré dans un rapport sensible à la nature et à nos interdépendances. Attaché à un territoire. J'ai voulu repeupler mon monde de ses habitants et me lier à leur destin.
Voilà, extrait donc de ce film Le vivant qui se défend, et c'est votre cadeau de Noël puisque c'est en accès libre, je le disais sur YouTube, on reparlera tout à l'heure justement de cette démarche. Gaspard Dalens, comment vous avez rencontré Vincent Verza? C'est sur le lieu des luttes justement au départ?
Oui, tout à fait, ça fait 10 ans qu'on se suit, qu'on se voit, qu'on se croise sur le terrain en fait, et je crois que le film de Vincent est très personnel, mais en même temps il raconte le cri d'une génération en fait, ce besoin de se relier, de s'attacher à des luttes qui sont ancrées, à défendre physiquement, presque charnellement, un territoire que l'on connaît de manière intime. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui nous relie, qui nous rassemble. Mmh. Nous, on s'était rencontrés en fait en 2016, lors de l'occupation du bois Le Jus à l'est de la France, donc à Bure, donc un bois qui était occupé à l'époque par des militants antinucléaires et contre le site d'enfouissement de déchets radioactifs. Et c'était là où on s'était rencontrés, donc à l'aune au chevet de grands arbres qui risquaient d'être rasés pour accueillir les pires rebuts toxiques de notre modernité.
Et la question de la forêt qui vous intéresse tout particulièrement, Gaspard Dalens, trouve sa place évidemment dans ce documentaire, on en parlera tout à l'heure. Comment vous êtes devenu militant écolo, Vincent Verza ? Youtubeur et militant écolo.
Ouais, justement, j'avais la capacité, le savoir technique pour faire des vidéos, et c'est arrivé très vite, en 2015, lorsque tout le monde parlait de climat, que je me suis dit qu'il fallait vraiment que je mette tout mon savoir-faire au service de cette cause, notamment lorsque j'ai pris conscience des points de non-retour, des points de basculement au-delà duquel on pourra plus en fait inverser la tendance. Et dans les informations que je recevais, on me disait c'est entre 5 et 10 ans. Donc je me disais la fenêtre de tir c'est maintenant. Mmh. Et donc j'ai mis toutes mes forces dans la balance. J'ai rêvé cette chaîne YouTube partagée sympa qui viendrait créer une communauté, qu'on amènerait vidéo après vidéo, thématique après thématique vers l'engagement. Le but, c'est vraiment le passage à l'action. Et là, ce film boucle quelque part ce cycle de 10 années. Ouais.
On va écouter un autre extrait sur les choucas qui sont justement autour de votre maison.
Depuis ma fenêtre, c'est le ballet des choucas des tours. Je ne m'étais jamais encore arrêté pour les regarder. Mais eux me voient. Ils ont toujours un regard pour moi. Le vieux platane a été taillé si court qu'aucune feuille n'y pousse. Ils doivent déménager. Nous ne voulons pas cohabiter. Mais moi, je sens que je sors de l'indifférence.
Vincent Verza et vos choucas. Et cette sortie de l'indifférence, en fait. Ouais. C'est ce que vous nous racontez dans ce film. Hein. C'est aussi poser un regard sur ce qui nous entoure immédiatement. C'est pas la peine d'aller très loin aussi. Hein.
Non seulement sur les animaux sauvages, du coup, qui nous entourent, mais aussi sur la manière dont nous, les humains, avons d'aménager et de prendre toute la place. Cette histoire des choucas, c'est vraiment ça. Je commence le film par regarder par ma fenêtre et après ça, je vais de plus en plus loin, tout en restant dans un rayon de 5 km autour de chez moi et dans cette zone périurbaine où j'habite. Mais les choucas, je trouve significatif le fait qu'on on veut tellement pas cohabiter qu'on grillage en fait les trous qu'il y a dans les platanes de manière à les empêcher de nicher. Et moi, lorsque j'ai changé mon regard, lorsque je me suis intéressé à ces choucas, c'est ce qui m'a sauté aux yeux en fait immédiatement. Je me suis dit, mais moi, ces oiseaux, je considérais qu'ils faisaient partie de mon paysage sonore, hein, parce qu'on entend leurs cris. Mais là, de voir la manière si difficile qu'on avait de leur rendre la vie si difficile, ça m'a choqué. Ouais.
Il y a énormément de matière dans ce film, hein, Gaspard Dalens, de la matière filmée, beaucoup de lutte hein, sur le terrain, et puis aussi cette nature qui vous entoure. Gaspard, vous êtes venu en renfort justement pour essayer de mettre un peu d'ordre dans tout ce bordel, non?
Ben, tout à fait, en fait. Vincent est venu me voir en me disant, bon, ben voilà, ça fait 10 ans que je filme les luttes écologistes et j'ai 4 téraoctets de films, des milliers d'heures de rush. Et comment je mets en récit aussi quelque chose qui peut paraître un peu de premier abord distant en fait, les images naturalistes, les images de blaireaux, de renardeaux, de cette nature ordinaire que tu filmes, et en même temps les images de lutte, et de raconter cet aller-retour, c'était ça qui était très intéressant, raconter ce fil entre les luttes et le naturalisme, ouais. Montrer que en fait ça s'accompagne, ça s'empuissante, que c'est des choses qui outillent nos luttes, et que c'est des moments importants, pas seulement des moments de respiration, mais des moments qui nous donnent de l'élan, de la force pour continuer à aller sur des luttes qui sont quand même éprouvantes. Hein. On a des images aussi dures de Sainte-Soline, des images de la 69. Et donc, c'est comment, en fait, on retrouve du souffle et de l'élan dans notre époque.
C'est ça. Et vous dites, d'ailleurs, Vincent Verza, à quel point c'est aussi compliqué de passer de l'énergie des manifestations, des luttes, au silence, à la quasi-méditation aussi de l'observation. C'est-à-dire que vous êtes sans arrêt entre ces deux temporalités-là.
À vrai dire, moi, je le vivais plutôt comme un soulagement d'avoir ces deux temporalités, parce que mon existence, c'était quand même de n'avoir que l'énergie haute de la lutte, que le bruit, que le vacarme, que essayer de faire bouger les lignes et pas toujours d'y parvenir. Et là, avec cet apprentissage du pistage, j'avais justement un moyen non seulement de me décentrer, de disparaître, de me fondre et d'appartenir comme ça à quelque chose de plus grand que moi, mais qui venait aussi m'apaiser à un endroit. C'était un truc qui avait inquiété justement Baptiste Morisot, parce que j'avais dit, voilà, j'ai l'impression d'avoir fait ce que tu proposes dans Manière d'être vivant et que j'ai moins la rage pour combattre, alors que ça a été beaucoup mon énergie, ma motivation. Et je réalise qu'aujourd'hui, bah, en fait, ça y est, cette synthèse, elle est là et le film la raconte bien et j'ai beaucoup de gratitude pour Gaspard qui m'a aidé justement, effectivement, non seulement à faire ce lien, mais aussi à décoller de mon histoire personnelle pour permettre à tout le monde de s'y retrouver. Mmh. Et là, maintenant, le film a fait toute une tournée au cinéma et il est en ligne et je vois bien que des gens arrivent à s'y retrouver et que c'est pas que mon histoire.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aussi, il faut apprendre à militer, pas forcément avec de la rage ou de la colère?
Ça veut dire qu'on a plein d'énergie qu'on peut convoquer. L'énergie de la colère, de l'indignation, de vouloir rectifier le monde, je trouve qu'elle est très belle, elle est très juste et elle a de la place. On a le droit d'être en colère vis-à-vis de ce qui se passe. Il faut qu'on se mette en colère. C'est un des messages que j'ai adressé aux naturalistes qui constatent le saccage et qui pour autant ont du mal à convoquer cette colère et ça a été plutôt bien entendu. Mais on a aussi besoin, comme affect, de vouloir défendre quelque chose de beau. Ce qu'on essaye de vivre en réalité, c'est justement de défendre une belle vie. Donc autant s'organiser pour la vie, pour la faire exister, pour la donner à voir, et que notre combat, ce soit plus simplement pour des totems comme la loutre, mais parce que vraiment, on s'est attaché à ces animaux qui peuvent ces territoires, qui sont menacés par des projets destructeurs. Quoi.
Gaspard Dalens, la beauté, justement, ça peut aussi être un acte politique clairement assumé aujourd'hui ?
Clairement, j'en discutais beaucoup avec Francis Allais, notamment, qui me disait qu'il fallait reconvoquer
le botaniste,
la beauté. Et je pense qu'effectivement, il faut remettre de la contemplation, du temps long, dans nos luttes, dans nos vies quotidiennes, retrouver de l'élan et du souffle par cette quiétude-là aussi. Et je pense que ça répond aussi à cette période qui est quand même assez terrible, en fait, où on balance entre la sidération et l'impuissance. Et là, il y a quelque chose qui, avec l'affût, avec le pistage, avec la contemplation, la beauté, qui vient nous guérir, qui vient nous réparer quelque chose. C'est comme un pansement presque spirituel, en fait. Et je pense que c'est important de remettre de la place à ça, oui.
Ça a été un film de guérison pour vous, Vincent Verzard, de tourner ce film ?
Ouais, thérapeutique presque, ouais. Notamment de correction de quelque chose que j'ai pu beaucoup renvoyer, qui était l'image du super militant très sacrificiel, mais qui ressent rien, qui est en exosquelette émotionnel et qui traverse l'existence comme ça. Et là, je remets du vocabulaire, de la vulnérabilité, de l'intime dans cette histoire que j'ai pu partager en vidéo. Et je trouve qu'elle donne beaucoup plus de sens. Et peut-être juste pour revenir sur la beauté, pour moi, dans le film, je la place aussi chez les humains. Enfin, je la place aussi dans ces militants et militantes qui mettent leur corps sur la ligne, qui le défendent. Et mon montage est aussi pour rendre hommage, en fait, pour montrer qu'il y a là une manière de vivre qui est digne et qui mérite d'être montrée et d'être honorée, quoi.
On va en parler de ces militantes dans un instant, tout comme on va évoquer les blaireaux, les castors, les mégabassines et la forêt. Ça s'appelle Le vivant qui se défend. Courez voir ce film, même pas dans les salles, hein, c'est chez vous, puisqu'il est disponible en libre accès sur YouTube.
France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard.
C'est une guerre affective qu'il faut mener. Se sentir concerné, rattaché. Ce n'est pas tant le climat ou la planète qu'il s'agit de sauver, mais notre attachement au monde, dans ce qu'il a de plus délicat et de plus commun. Notre surprise devant un vol de hérons cendrés au seuil de l'hiver. Notre émotion devant le rythme chatoyant des saisons.
Votre voix, Vincent Verzard, vous qui êtes notre invité avec Gaspard Dalens pour ce film documentaire que vous avez coécrit, Le vivant qui se défend, en accès libre donc sur YouTube. Vous dites désormais, Vincent Verzard, regardez les luttes à hauteur de blaireau. C'est vrai ?
C'est complètement
vrai. C'est votre
vrai.
Animal totem aujourd'hui, le blaireau ?
Ah, c'est plus que ça. Moi, je fais partie du fonds de réhabilitation des blaireaux. J'ai envie que tout le monde associe le mot blaireau à la générosité, à la famille, à la solidarité, à la construction de terriers pour tout le monde.
Ouais.
Je suis absolument passionné par cet animal et ça va me suivre encore un bon moment. Mais c'est surtout, moi, ce qui m'a fasciné, c'est à quel point il vit au milieu de nous et à quel point personne ne le voit, quoi. Et dans le film, il y a une séquence très belle avec à la fois ma nièce, à qui je montre un terrier de blaireau et qui a cette phrase magnifique qui dit « En fait, on n'est pas chez nous, on est chez eux ». Et juste après, un passant qui découvre ce coin-là et à qui je dis, mais là, maintenant, tu regarderas plus jamais cet endroit de la même manière.
Ils sont difficiles à filmer, les blaireaux ?
Oui, effectivement, ils sortent quand même la plupart du temps la nuit, car ils se nourrissent exclusivement en grande partie de vers de terre. Mais en s'organisant un peu, on peut réussir à les voir. Ouais.
Vous en voyez, vous, chez vous, Gaspard Dalens ?
Ça m'arrive souvent quand je reviens de nuit en vélo, ouais. Mais ce qui est très bien avec ton film, Vincent, c'est que tu montres vraiment cette nature ordinaire qui est familière, en fait, et que en fait, l'extinction du vivant, elle est aussi dans notre tête. Et là, c'est chouette de voir que elle est là, en fait, que le vivant est juste à côté de chez nous et qui peut pop-up comme ça, ouais. Apparaître.
Qui est petit père, Vincent Verzard, exactement ?
Ben, c'est un blaireau qui m'a tout appris. J'ai commencé le pistage animalier du coup il y a un peu plus de 4 ans et en fait j'ai suivi des coulées, des traces, des indices comme ça de présence au sol et je suis tombé sur ce terrier et c'était le premier terrier sur lequel je tombais et je crois que je suis devenu un petit peu obsessionnel. J'ai placé mon piège photo en me déplaçant tous les deux jours et j'ai eu une envie de réussir à l'observer sans le déranger, hein, ce qui est absolument très important. Et au bout de 4 mois de patience, j'ai réussi à le voir et c'était la toute première fois que je voyais d'abord cet animal, mais qu'en plus j'organisais la rencontre, le fait de pouvoir le voir et ça m'a vraiment, vraiment mis les larmes aux yeux. Mais à vrai dire, petit père m'a beaucoup appris aussi la douleur qu'il y a à s'attacher aux animaux sauvages et là-dedans j'envoie un message d'amour et de tendresse à tous les naturalistes qui nous écoutent, qui ont vu ça en s'attachant à des animaux et à les voir se faire percuter. Bah, c'est ce qui s'est passé pour petit père, il s'est fait taper et c'est la première fois que j'ai pleuré un animal sauvage qui ne m'avait ni vu ni entendu, que j'avais pas caressé et qui pour autant m'avait appris sur ma propre existence et sur nos luttes, quoi.
Ouais, et tout ça effectivement dans une proximité incroyable, hein, parce que vous filmez vraiment cette nature qui est au porte de votre maison, ouais. Entre quasiment une voie ferrée, une rivière, une route,
ouais.
Et vous avez un petit carré en fait de bois tout petit et dans lequel il y a des renards, il y a des blaireaux, il y a plein de choses à filmer.
Ouais, ce que j'ai filmé, c'est en fait la manière dont j'ai travaillé, c'est que j'ai pris une carte et j'ai mis en couleur les espaces que nous on occupe et qu'on habite et qu'on transforme, et en creux du coup se dessinaient leurs espaces. Mmh. Ils vivent dans le négatif de leur monde, de notre monde. Ils vivent dans les interstices, ils vivent confinés, et pour autant ils subliment quoi ces friches industrielles. Ils y apportent une vie qui mérite d'être vue et que j'ai voulu raconter dans ce film. Ouais.
On va parler forêt dans un instant avec vous, Gaspard Dalens, mais avant cela, une séquence en compagnie du philosophe Baptiste Morisot, que vous avez eu la chance de retrouver les pieds dans l'eau, pour une campagne de restauration de cours d'eau, assez marquante d'ailleurs. On va écouter un extrait tout de suite.
Ce qu'on imagine, c'est d'essayer de guérir, enfin de soigner pour que la rivière se guérisse elle-même. Quand elle est incisée, on va lui permettre de s'agrader. Quand elle est déconnectée, on va la reconnecter. Et quand elle est simplifiée, on va la pluraliser, on va la complexifier. Et c'est ce qu'on a fait plus haut. Un castor, par exemple, il peut revenir ici, il peut amplifier cet ouvrage indéfiniment. Si on était resté sur la rivière très incisée, il construirait chaque année et à chaque crue, ce serait arraché. Et donc c'est là qu'on est en train de parler d'alliance et de réciprocité. Parce que nous, on lui fait de l'habitat et lui, il guérit le milieu pour nous.
Une alliance avec les castors, donc Vincent Verza.
Ouais, les pieds dans l'eau, effectivement, c'est vraiment assez génial. C'est ce que fait le MAPCA, MAPCA.EU, qui a pour ambition vraiment de corriger le saccage qu'on a fait de nos cours d'eau partout en France.
En faisant des barrages.
En faisant des barrages d'imitation castor, de manière à ce que les castors puissent revenir et vraiment faire du bon boulot, parce que nous, on patauge, quoi.
Et alors, ce qui est étonnant, c'est que dans votre propre rivière, vous avez aussi croisé des castors, alors que vous ignoriez leur présence.
Ah, la synchronicité était dingue. C'était littéralement le lendemain de ce chantier castor, je me dis bon, j'ai des waders, ça permet d'aller dans l'eau, je vais aller remonter mon cours d'eau qui pour autant est complètement malade, totalement rectiligne et où il y a à vrai dire assez peu d'eau.
Ouais.
Et puis je tombe directement sur un castor et c'est un échange de regards, on s'est regardé pendant pratiquement 10 minutes, c'était fou et je me suis dit bah voilà, en fait la force de la nature est là, elle demande qu'à revenir, qu'à reprendre le pouvoir et à redonner de la vie quoi dans le cours d'eau.
Dans une rivière très asséchée aussi. Dans quel coin vous êtes exactement, vous ?
En Ardèche.
Ouais. Donc là, on voit les cours d'eau complètement asséchés.
Ouais.
Et c'est aussi un constat très concret de ce qui se passe en ce moment dans ce type de région.
Exactement, ouais. M'intéresser aux animaux sauvages, ça a été aussi la première fois où je ressentais en moi le stress hydrique. Jusqu'à maintenant, pour moi, quand il pleuvait pas, c'était juste des jours de beau temps où je pouvais plus aller faire du VTT. Et là, je voyais les animaux souffrir. Je voyais le cours d'eau s'assécher. Je voyais les poissons vraiment mourir asphyxiés dans les mares. Et en fait... l'importance du coup de réussir à faire que l'eau reste, à faire que l'eau ruisselle plutôt que parte en torrent vers le Rhône, ça c'est devenu un vrai besoin. Ouais.
Gaspard Dalens.
Oui, ça montre bien le destin commun en fait qu'il y a entre nous et les autres qu'humains, le reste du vivant. Il y a quelque chose comme, en fait on voit, c'est un continuum de violence que nous renvoie le capitalisme ou le productivisme, et c'est intéressant de voir que on est une même communauté d'affliction et on fait face aux mêmes problèmes et on va devoir affronter ça ensemble, presque à égalité en fait, et ça c'est quelque chose qu'on ressent pas mal dans le film et dans nos parcours en fait, ce besoin de reposer sur des puissances un peu immémorielles que sont les forêts, les autres humains, etc.
On va écouter la voix d'un humain, il s'appelle Pichou. Il a occupé un arbre dans un nichoir, et ce sera l'occasion de parler de forêt avec vous dans un instant. C'est toujours extrait de votre documentaire Le vivant qui se défend.
J'ai grimpé dans les arbres, et du coup, une fois qu'on connaît individuellement des êtres vivants, et ben, on a envie de les protéger individuellement. Et ça, c'est beaucoup plus fort que d'avoir un avis très global sur la protection du vivant, de l'écologie et de la nature.
Un attachement affectif à un tout petit bout de monde pour ancrer en nous le courage d'être la nature qui se défend.
La voix de Pichou, donc, et la vôtre, Vincent Verza. Pour parler de forêt, Gaspard Dalens, vous qui évoquez un soulèvement des forêts. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, ce terme ?
Eh ben, c'est un paradoxe, c'est que la forêt représente quand même un tiers de notre territoire, et pourtant il y a peu de mobilisation quand on regarde ce qui se passe, par exemple, dans le milieu agricole ou pour la défense de l'agriculture paysanne, il y a toute une culture syndicale, toute une tradition politique qui est là. Mm-hmm. Mais sur les forêts, elle est méconnue. Et finalement, les gardes forestiers qui luttent contre la privatisation rampante de l'Office national des forêts sont assez isolés, marginalisés, on ne les entend pas assez. Et là, c'est ça qui est intéressant, qui est en train d'émerger, ce soulèvement forestier, c'est plutôt une dynamique de lutte qui est en train d'émerger.
Contre quoi d'ailleurs ?
Contre une industrialisation de la forêt française. Donc l'émergence et la multiplication des coupes rases, donc des coupes à blanc, des monocultures et de la logique de plantation. Et donc pour la défense de forêts qui sont vivantes, de forêts qui sont diverses, plurielles. Et là, il y a tout un continuum aussi d'associations écologistes comme Canopée, les Amis de la Terre et en même temps des syndicalistes, la CGT Forêt qui se mobilise contre les usines à bois, et tout un cortège de gens, d'habitants et d'habitantes du territoire qui créent des comités d'autodéfense des territoires, qui défendent leur forêt, leur espace vécu, comme le dit Pichou. Et je pense que il est en train de se jouer quelque chose. C'est pour l'instant assez ténu, c'est sur les territoires, mais il y a des mobilisations de plus en plus massives sur la question des forêts, là où il y a 10 ans, en fait, on n'entendait pas. Et on a réussi à repolitiser notre attention à la question forestière depuis une dizaine d'années. Et ça, c'est un succès, c'est une des victoires, une des victoires du mouvement écologiste ces dernières années.
Avec votre caméra, Vincent Verza, qui rend justement hommage au travail des militants, hein, qui vraiment consacrent énormément de temps, d'énergie. Il faut se lever très tôt le matin, c'est ce qu'on voit avec l'un d'eux, hein, pour aller justement essayer de contrer les machines et de créer une tension aussi et une opposition.
Quel courage il y a chez ces militants et militantes des forêts et qui remportent des victoires. Hein. Je pense qu'il faut jamais l'oublier. Dans le film, je raconte l'histoire du bois du chat. Le bois est encore debout. La coupe a été empêchée en mettant le corps de militants sur la ligne et en l'occurrence, cette coupe était illégale et elle n'a jamais repris. Et c'est intéressant, de pouvoir politiser cet enjeu de la forêt parce que moi, je le connaissais pas du tout en tant que militant écolo. J'en avais jamais parlé, j'en avais même jamais entendu parler. Et c'est entre autres sur les encouragements de Gaspard que je me suis dit, mais en fait, c'est un super espace. En fait, pour moi, c'est le milieu de vie par excellence de la faune sauvage. Et pour autant, il y a un enjeu politique là. Il y a quelque chose où se joue tout l'hubris humain, hein, qui raconte qu'on va adapter la forêt au changement climatique, que c'est nous qui devons intervenir, qui devons la sauver, sans quoi elle va dépérir. Mmh. Alors que j'ai du mal à croire vraiment, il va falloir me le démontrer très très fort, que c'est en rasant des forêts diversifiées qui maintiennent de l'humidité au sol, qui maintiennent une biodiversité pour y replanter des monocultures de Douglas, qu'on va mieux adapter la forêt au changement climatique.
Avec le cas de la région du Limousin, hein, qui est très présent.
Tout à fait, ouais. Et ce qui est passionnant dans ces mobilisations, c'est qu'on arpente la forêt. C'est juste qu'on défile, on fait une manifestation, mais pas dans les rues de Paris entre République et Bastille, mais dans la forêt. Et là, on écoute le pouillot siffleur, on écoute la citelle, on écoute les oiseaux, on voit l'habitabilité de notre monde, on voit le vivant qui est là tout autour de nous. Et quel soulagement, qu'est-ce que ça fait du bien. Moi, je me rappelle d'une manifestation dans les Pyrénées, on était 2000 à marcher dans les grandes hétrées des Pyrénées pour les défendre contre l'implantation de la méga-scierie Florian qui finalement a été annulée, abandonnée. Mais ça nous changeait des marches climat où on défilait sur l'asphalte, sur le béton, le bitume. Là, enfin, on respire.
Voit d'ailleurs les militants qui marquent des pauses pour écouter aussi les oiseaux. Hein. Il ne s'agit pas que de manifester dans la forêt, mais c'est aussi d'entendre ce qui se passe autour. Ça s'appelle Le vivant qui se défend. Vincent Verza et Gaspard Dalinz, vous êtes notre invité en cette journée de Noël.
France Inter. La Terre au carré.
On s'oppose à l'artificialisation et au massacre des territoires pour du profit et contre l'agriculture paysanne. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est s'allier, c'est soutenir l'agriculture paysanne pour un futur désirable, pour lutter contre le chaos climatique, pour avoir de la nourriture qui soit bonne à manger.
Il faut faire péter leur monde avant qu'ils fassent péter le nôtre. Notre monde, c'est le monde du vivant.
Mais voilà, regardez, ils en ont pas marre de défendre ceux qui foutent le feu à la planète. Regardez ce qu'ils font. Leur putain de grenade, ça fout le feu à notre territoire. C'est là où on vit ici. Eux, ils en auraient la foutre. Ils soutiennent une mafia. La mafia 69.
Extrait de votre documentaire Le vivant qui se défend, Vincent Verza, Gaspard Dalinz, vous êtes nos invités aujourd'hui. Film donc qui est en accès libre sur YouTube et vous avez filmé, suivi Vincent Verza, les mobilisations, énormément d'ailleurs de luttes. et en particulier celle autour de la 69, la confrontation avec les policiers. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de cette lutte-là, en particulier de cette autoroute entre Castres et Toulouse, hein ?
Qu'il s'agit d'une lutte pour habiter le monde différemment, en fait. On voit vraiment que ces militants et militantes qui habitent ce territoire ont envie de faire de ce coin entre Toulouse et Castres autre chose qu'une immense zone d'accélération pour voiture.
Pour gagner 20 minutes.
Pour gagner 20 minutes et puis payer 17 balles, enfin je sais plus combien, mais... et qu'il y a quelque chose aussi d'absolument insoutenable aujourd'hui avec tout ce qu'on sait sur le changement climatique, sur l'effondrement de la biodiversité, de continuer à sortir des projets qui ont plus de 30 ans et de les réaliser, de les passer en force comme ça. Les forces de l'ordre sont simplement là pour faciliter ce passage en force, hein, c'est jamais les interlocuteurs directs de ces luttes, et c'est sûr que sur la 69, ça a été très très dur, et j'ai voulu rendre hommage, hein, encore une fois à cette lutte, à ces militants. Ouais.
Le 18 décembre dernier, le Parquet de Toulouse demandait la suspension des travaux sur des zones où les travaux ne sont pas autorisés. Donc, c'est 46 sites au total qui ont été identifiés le long du tracé. C'est une bonne nouvelle.
C'est une excellente nouvelle. Moi, je me réjouis que cette histoire ne soit pas terminée. Elle n'est jamais terminée, d'autant plus que pour moi, tant qu'on arrive à empêcher que les voitures roulent à 120 km/h sur cette route et que ça devienne un mouroir pour les animaux, qu'ils ne puissent plus la traverser du tout, bah, on est encore en train de gagner, en fait. On est en train d'éviter des tonnes de morts, donc ça, c'est très très bien. Mais en plus, moi, aujourd'hui, je suis plutôt dans une dynamique d'être à l'aise avec ce que j'appellerais un baroud d'honneur, c'est-à-dire de mener des batailles, non pas avec la garantie qu'on les gagne, mais simplement pour l'honneur, pour la dignité qu'il y a à les mener et pour ce que ça raconte, en fait, en tant qu'humain sur cette terre, dans ce moment-là, qu'on n'a pas choisi de vivre, on n'a pas choisi d'être là. C'est pas moi, hein, qui construit l'autoroute, c'est pas moi qui fais des méga-bassines, mais par contre, je peux être de ceux qui cherchent à empêcher ça, de ceux qui cherchent à embellir le monde plutôt qu'à l'enlaidir.
Et ça, cette nouvelle procédure devant la justice pénale est parallèle à celle qui est engagée devant la justice administrative. Dans le cadre de cette dernière, d'ailleurs, le magistrat de la Cour administrative d'appel de Toulouse doit rendre une décision le 30 décembre prochain, Gaspard Dalin, sur la validité de l'autorisation environnementale de 2023 et la poursuite du chantier ou non dans sa globalité. Donc c'est pas fini encore, il y a des bonnes nouvelles, mais c'est assez épuisant d'ailleurs aussi pour les militants, j'imagine, ces montagnes russes émotionnelles là autour des avis qui sont donnés.
Oui, on attend le rendu du 30 décembre prochain, donc, et c'est sûr que quel courage, quelle abnégation, quel acharnement presque. Moi j'ai été beaucoup... marqué en fait par l'occupation dans les arbres, par le GNSA, par les zadistes,
donc les écureuils,
les écureuils, les fameux écureuils. D'ailleurs, c'est intéressant qu'ils reprennent le nom d'un animal. En fait, ça dit aussi quelque chose des mobilisations actuelles. Et voilà, ils sont restés accrochés aux arbres pendant des dizaines de jours. En fait, certains ont fait des grèves de la faim. Enfin, ça a été une lutte pendant des années. Et je crois comme tu le dis, Vincent, c'est pas une question de défaite ou de victoire. En fait, il faut être là, il y a une question de dignité. Et ces batailles, on les mène sur le temps long aussi. Ça sera peut-être, si l'autoroute advient, ça sera peut-être la dernière des autoroutes, en fait, en France. Et en fait, on construit quelque chose sur... C'est une bataille culturelle aussi qu'il faut mener. Et ça se mène sur des décennies, en fait. Il faut accepter ce que les anarchistes appellent la mémoire des vaincus. Tout ça, ça se construit sur le temps long. Il faut des récits pour pas qu'on oublie, en fait, ce qui s'est passé, ce qu'on a vécu sous le béton et sous le bitume, en fait, d'une autoroute.
Et donc, ça pose quelque chose quand même pour l'avenir, même si l'issue n'est pas forcément favorable à ceux qui ont milité contre.
Ouais, moi je suis convaincu qu'on est en train de raconter une nouvelle histoire. Je sais qu'à titre personnel, moi je faisais déjà des centaines de vidéos, j'avais encore jamais parlé de la route, de ce que c'est qu'une route pour les animaux sauvages, et là c'est la première fois dans le film que je le fais, et ça c'est grâce à cette lutte en fait qui a ouvert mon regard et grâce à ça qui m'a donné envie de le raconter, et aujourd'hui le film a déjà été vu 250 000 fois, donc on avance quoi, on est en train de participer à cette bataille culturelle, à cette bataille de récit.
Autre lutte évidemment très emblématique, celle sur les méga-bassines à Sainte-Soline, vous y étiez, Vincent Versa, et je dois dire qu'on voit, grâce à vos images et vos images de survol aussi de la zone, quelque chose d'assez spectaculaire qui donne aussi toute la dimension à la fois de la mobilisation et de la répression policière face aux militants, avec beaucoup de traumatisme aussi. On a vu les images aussi révélées par Libération et Mediapart. Qu'est-ce qui, encore une fois, vous a marqué personnellement là dans Sainte-Soline ? Parce qu'on voit avec un masque à gaz au milieu des bombes lacrymo. animaux.
C'était ma première expérience de guerre dans ce contexte d'une. La mégabassine, c'est une maladaptation hein, au changement climatique. C'est l'accaparement de l'eau pour satisfaire des besoins d'une agriculture exportatrice de céréales et qui va pas nourrir les humains. Et en face, la dignité, le courage, mais phénoménal des militants et militantes qui ont cherché à gravir malgré le barrage policier cette mégabassine. Et moi, je nous ai vus à ce moment-là comme une horde de sangliers, quoi, qui cherchons nous aussi à rectifier ce monde, à renverser cette injustice et à montrer que oui, en fait, on laissera pas l'eau, ce bien commun, être accaparé dans les mains de quelques-uns pour d'extrêmement mauvaises raisons, quoi.
On va écouter Julien Le Guay, le porte-parole de Bassine Non Merci, qui intervient justement dans votre film.
C'est bien les paysans et le peuple contre l'agro-industrie. C'est un symbole très fort et les camarades de la Confédération Paysanne, ils jouent un rôle tellement important. Ils sont porteurs d'une autre agriculture. Les bassines, c'est juste la brèche dans laquelle on va s'engouffrer pour mettre à mal et pour faire tomber l'agro-industrie.
Ce jour-là, nous n'avons pas trouvé une brèche, mais un mur. Un mur de blindés, un mur de grenades.
Le mur de Sainte-Soline, Gaspard Dalin, c'est difficile aussi pour les militants anti-bassines hein, de vivre ces événements-là et puis de les digérer, de se reconstruire aussi après.
Tout à fait, moi j'y étais aussi et on a suivi aussi énormément ça à Reporter. Ce qui nous a marqué, c'est aussi tout le discours gouvernemental qu'il y a eu ensuite, toute la bataille des récits qu'il a fallu mener pour rappeler ce qui s'est passé et dont les dernières révélations de Libération et de Mediapart montrent bien aussi, notamment avec les vidéos des gendarmes, toute la violence qu'il y a eu en fait aussi. Et c'est comme tu le disais, en fait, Vincent, c'est une sorte de guerre de basse intensité qui a été menée à l'encontre des écologistes. Et effectivement, il y a eu 200 blessés, des blessés graves, dont Serge qui a été dans le coma, qui a failli mourir. Et donc, oui, il a fallu se reconstruire ensuite. Et je pense qu'on n'a pas encore pensé les plaies de Sainte-Soline. Et en tout cas, il y a besoin aujourd'hui de réfléchir aussi à nos stratégies, de réfléchir à comment on continue à avancer dans un moment de backlash, de retour de bâton, de criminalisation des militants écologistes, de répression tout azimut. Et donc, il va falloir essayer de tenir avec dignité et force dans la période.
Et par exemple, avec des images. Par exemple, en allant observer aussi directement, pas seulement en regardant d'ailleurs des documentaires sur YouTube, mais en allant sur le terrain et juste à côté de chez soi, Vincent Verza.
C'est totalement ce à quoi j'invite tous les militants et militantes qui nous écoutent de se mettre à l'affût, de se fondre un petit peu, de s'intéresser à qui habite notre territoire, là, immédiatement à côté de nous, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la puissance de se rattacher, de se décentrer et... de mener une lutte pas seulement contre tous ces projets inutiles et imposés qu'il y a partout en France, mais aussi pour, au nom d'espèces auxquelles on est connecté par notre appartenance au vivant. C'est ça le principe du vivant qui se défend. Ouais.
Et voilà, son film donc à voir en diffusion libre sur YouTube. Pourquoi vous avez choisi d'ailleurs ce système sans publicité pour montrer votre travail? Vous auriez pu le sortir en salle ou c'était vraiment très compliqué?
J'aurais complètement pu le sortir en salle. Il y a quand même une grosse tournée au cinéma. On a fait plus de 400 dates en autogestion. C'est les collectifs locaux, les associations naturalistes qui se sont emparés du film. Il y a 40 000 personnes qui sont venues le voir, mais c'est vrai que pour moi, c'était évident que j'avais envie que ce film soit une sorte de bien commun, que n'importe qui puisse le voir et ne soit pas dérangé par la publicité, ce qui est une anomalie sur YouTube, il n'y a pas de placement de produit non plus. Mais ce qui permet aujourd'hui de vous en parler à la radio et que vous pouviez immédiatement aller le voir gratuitement.
Et on peut organiser des projections d'ailleurs, si on est plus de 50, vous organisez des projections
même,
comme ça
même moins de 50, ça, c'est pas un problème, on continue effectivement de faire une tournée. Donc écrivez-nous sur le site partagercestsympa.com, on vous accompagne.
Voilà, c'est votre film, donc Le Vivant qui se défend, coécrit avec vous Gaspard Dalins. Et puis je signale également votre ouvrage Des forêts en bataille, qui est sorti l'année dernière aux éditions du Seuil, qui vient de remporter le prix littéraire Lire pour agir. Merci beaucoup à tous les deux. Passez un bon Noël.
Merci
d'être venu juste après les agapes du déjeuner de réveillon. Et puis donc je renvoie sur ce film Le Vivant qui se défend. Merci infiniment à tous les deux.
Merci.